Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la 105.5 MHz Radio Serré. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire « Usager de la route ». Au menu de l'édition de ce jour, nous parlerons des pneumatiques du véhicule. Pourquoi et comment vérifier régulièrement la pression d'air de ces pneus? Comment vérifier l'état même de ces pneus? Quelle est la signification des références inscrites sur un pneu? Comment prolonger la durée de vie de ces pneus? À quelle fréquence faut-il changer ces pneus? Quels sont les critères du choix des pneus pour son véhicule? Telles sont les questions auxquelles nous essayerons d'apporter des réponses au cours de cette émission. Pour cela, nous bénéficierons de l'expertise de M. Lambert Bétché, directeur du Centre technique de Marois. L'équipe à votre service est composée, comme d'habitude, de Maxino à la technique et David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Fermez les portières et attachez vos ceintures. Nous démarrons dans un instant. Amis auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Usagers de la route, votre émission de sensibilisation routière sur la 105.5 MHz radio Auxerre. Interpréter les inscriptions sur un pneu peut s'avérer être un véritable casse-tête pour les automobilistes, qu'il s'agisse des pneus de voiture ou de moto. Pourtant, chaque mention sur un pneu, lettre ou chiffre, a une signification particulière qu'il faut connaître et déchiffrer avant de choisir les pneus de son engin. À défaut, vous courez le risque de chausser votre engin avec des pneus qui ne lui correspondent pas et vous exposez ainsi au risque d'accident. De la même manière, chausser son véhicule de façon inappropriée a une incidence sur ses performances et sur sa consommation. En effet, le pneu, encore appelé bandage ou bandage pneumatique, est un élément essentiel pour le bon fonctionnement de tout véhicule. Le pneumatique assure la liaison entre la roue du véhicule et la route et permet de transmettre sur la route les actions du conducteur telles que le freinage, les changements de direction et les accélérations. Il va sans dire que de mauvais pneus peuvent rendre difficile, voire dangereux, la conduite d'un véhicule. Avoir un pneumatique en bon état est une exigence pour tout engin mis en circulation. Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de pneus et l'état de ces pneus doit être tel que la sécurité soit assurée, y compris l'adhérence, même sur chaussée mouillée. Telle est la quintessence de l'article 64 alinéa 1er du code de la route CEMAC. Comme pour tous les éléments mécaniques des automobiles, il est très important pour les automobilistes de savoir comment entretenir leurs pneumatiques afin de s'assurer une expérience de conduite sécurisée, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs passagers et pour les autres usagers de la route. C'est à cette tâche que nous allons nous atteler au cours de cette émission avec le concours de notre invité. Mais avant de l'accueillir, nous prenons d'abord notre rubrique « Micro-trottoir ». Nous avons tendu notre micro à quelques automobilistes de la ville de Marois pour recueillir leurs connaissances sur les pneus et leurs habitudes de contrôle de l'état des pneus de leur engin. Écoutons-les plutôt.
Moi, c'est Achenan Jérémy. Bon, un pneu, c'est un élément qui permet à la voiture de se déplacer. Oui, donc c'est à base de ça que la voiture peut se déplacer. Le parti du pneu sont, nous avons le flanc, nous avons la bande de roulement. Bon, je pense que c'est l'essentiel. Si, le pneu de date de péremption. Bon, ça dépend de type de pneu. Bon, il y a par exemple l'usure qui peut intervenir. En cas d'usure, on peut remplacer un pneu. Et puis, bon, dans certains véhicules, même il y a aussi la date. Bien, les kilométrages, après un certain kilométrage, il faut remplacer le pneu. Bon, ça se voit quand c'est usé là, tu peux voir ça. Il y a aussi le problème de paralysme qui peut également contribuer à l'usure des pneus. Donc dans ces cas, il faut également remplacer. Bon, il y a les crampons qui s'usent. Dès que les crampons ne sont plus bien là, on peut constater que c'est usé. Et quand ça s'use même, il y a également le fil à l'intérieur du pneu qui peut se voir. Donc à partir de là, on peut comprendre que votre pneu est usé. Ça peut s'éclater en marchant et puis ça peut causer l'accident.
Moi, je suis Narcisse Jondan. Bon, j'ai fait la moto. Bon, c'est ma troisième année cette année en matière de conduite. Bon, le pneu permet la circulation de l'engin. C'est un outil de sécurité parce que sans pneu, on ne peut pas conduire la moto. C'est partant des pneus qu'on assure la circulation avec les clients. Quand ça s'explose, ça nous renverse aussi, donc ça nous conduit à l'accident. On peut dire que c'est une sécurité. Bon, quand c'est déjà rongé ou bien quand c'est passé sur des choses tranchantes comme les cailloux un peu taillés, que ce soit les couteaux, même les pointes, ça peut aussi permettre à l'explosion. Alors, il faut à chaque fois contrôler les roues de l'engin quand tu veux sortir pour assurer bien ta sécurité en matière de circulation. On peut contrôler ces crampons. Quand le crampon est encore gros, on peut dire que voilà, le pneu n'est pas encore gâté. Si les crampons sont encore sortis, par exemple, si c'est déjà rongé, là, c'est là où ça peut facilement exploser. Partant des crampons, là, on peut vérifier que voilà, c'est déjà prêt à être changé. Bon, si c'est un bon pneu, moi, j'estime que ça peut faire quand même 6 mois. 6 mois déjà, tu peux changer un autre pneu. Bon, si c'est pas un bon pneu, on peut changer en 3 mois. Tel que mon exemple, j'ai payé tout récemment un autre pneu. J'ai fait seulement 3 mois avec. Après, j'ai changé. C'était pas un bon pneu.
I'm called Sadiq Mohamed. I drive Simi. The tire that you have seen, they have many quality. There are some with the good quality, there are some with not the good quality. Like long match, that's the very good quality of the tire. It takes you a long time to spoil or to get bad. But when you use these Chinese tires, they are too cheap like that. Just 1 hour car the tire will get bad. Mm-hmm. Bon, the difference is that the good tires like Michelin tire, that's a very good quality of tire. This long match you are seeing is a very good type of tire. With the Chinese tire, you can see triangle, that triangle, you can manage it 2 or 3 worker. After that, you get bad. So that's the difference. There are some tires, when you have a very good tire, very quality of tire, it can take you 6 months before you change it. But with a tire that is a Chinese tire, it can take you only 3 months, 2 months, get bad. Mm-hmm. It's too bad, it's not good. You can get an accident with it, with a tire that is not good, because it can get bad at any time. The tire is holding the air inside the tire is holding the tire to have a very good weight according to the cargo that the luggage they will carry. We carry sometimes the luggage are up to 32 tons. They are more than the weight of the car. So you have to put enough air inside the tire so that it can help you to roll very well. That is the difference. There are some tires that any vehicle have its quality of tire that it takes. There's someone they take 13, someone take 15, someone take 315. So all the cars are not the same. They are very different. Mm-hmm.
Je m'appelle Valentin. Ça fait déjà 2 ans que j'ai conduit la moto. Bon, le rôle des pneus est de nous aider à rouler la moto. Et cela, c'est duré, c'est de 6 mois, 4 mois, 5 mois, ça dépend du travail. Quoi. Si tu travailles trop, c'est 4 mois. Si tu ne travailles pas beaucoup, c'est 2 mois, 3 mois. Bon, ça dépend. Parfois, les crampons, c'est déjà fini. Parfois, c'est fendu comme ça. Si c'est fendu, tu peux savoir que c'est déjà expiré. Tu changes d'autres. Bon, parfois, si les pointes, si ça prend 2 fois, 3 fois des pointes déjà, là, ça commence à te déranger. Tu peux changer aussi les pointes sur la route. Quand en Marwaye, nous avons le problème des routes là. Les routes ne sont pas goudronnées. Ça gâte les pneus. Oui, pneus avec chambre air, c'est résistant. Parce que il y a deux choses, il y a chambre air, il y a aussi pneus deux fois, deux choses à la fois. Donc les deux choses là, ça aide. Mais si c'est pneus seulement là, si quelque chose touche, ça peut tomber en crévision vite. Le soleil, si ça chauffe, parce que si ça roule là, ça chauffe le pneu éclate. Donc c'est le climat qui fait chaud là, ça éclate vite. Pour éviter ça, il faut changer de temps en temps de chambre air. Si ça colle 2 fois, 3 fois, il faut changer de chambre air. Ce qui est sur les pneus, ça signifie les marques des pneus, rien d'autre. Je ne connais pas l'air qu'on met dans les pneus. En quantité, je ne connais pas. C'est les gens qui sont chargés de nous coller les chambres air qui met l'air dans le pneu. Le problème est que si on met trop, ça devient très dur et puis dans le dag-dag, là, ça nous dérange beaucoup. Et s'il n'y a pas beaucoup d'air, l'autre, là, si la route, comme la route n'est pas bonne, ça va tomber vite en crévision.
C'est monsieur Aboubakar Yaya, le camion poids lourd. Le rôle de la pneu, c'est la sécurité de toi, le chauffeur, en personne. Les roues, s'il y a un problème, ça a un dégât, tu ne connais pas à quel niveau que le dégât peut arrêter. Donc c'est mieux tu prévenir, tu contrôles l'épine de devant jusqu'à arrière. Pour vérifier, il faut voir. Il y a une fer qui est lâchée, il y a une coulou qui est dans l'épine, ou bien l'épine a tourné, que la date est déjà bonne. Il faut essayer de voir tout par rapport à l'épine. C'est la l'épine qui est le camion, c'est la pine qui porte la marchandise. Donc la marchandise de quelqu'un, c'est un risquant. La vie de quelqu'un, c'est un risquant. Donc tu dois veiller sur ça. C'est ton propre travail. Toi-même, ça va t'aider. Avec les patrons, avec la propriétaire de la marchandise, avec les motoboys qu'ils ont dans les camions, avec les gens qui voyagent, comme la transport en commun. C'est une vie qui voyage en route. Il faut veiller sur ça. Tu mets l'épine à jour. Chaque en démarrage, tu vérifies. Tu vois, est-ce que le côté-ci est bien? Est-ce que le côté-ci n'est pas bien? S'il n'est pas bien, tu cherches à arranger avant de décoller. C'est ça qui est bien. Donc la camion a besoin de contrôler de tous les côtés. Et en plus, tu conseilles les motoboys, ils doivent veiller en chaque roue. S'il y a manqué d'air, ils te déclarent. Toi seul, ça ne suffit même pas. Il faut veiller sur ça.
Je m'appelle Boupine Clément et je travaille la moto depuis 4 ans déjà. Le pneu, c'est un moyen qui permet à une moto de rouler dans un bon état. Et son rôle principal, c'est de faire filer la moto. Sans le pneu, la moto ne peut pas se déplacer. Et c'est un élément de sécurité parce que quand on achète un pneu neuf et quand les crampons ne sont pas encore épuisés, ça permet bien à la moto de rouler. Et je me sens en sécurité en ce moment si les pneus ne sont pas troués. Et c'est grâce à cela que je me sens en sécurité, beaucoup plus. Et normalement, si on conduit la moto régulièrement, il fallait au moins 6 à 7 mois pour changer le pneu de derrière. Et celui de devant peut aller au-delà de 7 mois. Et si tu ne conduis pas régulièrement la moto, et tu peux aussi aller jusqu'à 10 mois, voire 11 mois. Et ça va permettre encore de travailler. Mais beaucoup plus, il faut contrôler le pneu pour changer au moins entre les 7 et 6 mois. Bon, les problèmes sont multiples. Quand le pneu est fatigué, et il fallait directement changer parce que quand ça s'éclate, ça va te créer un accident de circulation. Bon, moi personnellement, ça ne m'a pas encore arrivé une fois. Et je vois beaucoup plus, ça arrive avec mes camarades qui travaillent aussi la moto. Donc, je leur donne des fois des conseils. Il fallait qu'ils contrôlent bien leur pneu afin d'éviter ce genre de risques. Bon, pour moi personnellement, pour contrôler mes deux pneus, je vois d'abord les traces des crampons. Si c'est déjà plat, c'est que le pneu ne peut plus c'est-à-dire être utile pour travailler. Donc, s'il y a le soleil, ça cause, n'est-ce pas, des trous. Et s'il y a aussi des trous comme les pointes qui touchent, ça crée aussi des problèmes. Les pneus explosent parce que les pneus sont déjà fatigués. On ne peut pas aller au-delà des moyens qu'on a mis sur les pneus qui permet de rouler. Donc, ça peut éclater s'il est déjà fatigué. Beaucoup plus, je ne connais pas l'indication qu'ils ont mis sur les pneus, mais moi, ma moto prend le pneu de 317/18. C'est-à-dire, ça convient à la moto dont je conduis. Dans le pneu, généralement, s'il faut bien pomper, il faut au moins 5 kg. 5 kg permet à la moto de bien rouler. Le pneu de derrière, mais pour celui de devant, on peut pomper à 3 kg.
Merci à tous les usagers de la route qui nous ont livré leur expérience de l'utilisation des pneus. Je tiens à préciser qu'aucune des personnes à qui nous avons tendu notre micro n'a été en mesure de nous donner la signification des différentes références inscrites sur leurs pneus. Comme vous avez pu le constater en les écoutant, la plupart des automobilistes fonctionnent sur la base des réflexes et des pratiques courantes pour gérer leurs pneus. Pourtant, les inscriptions mentionnées sur un pneu ne sont pas des décorations, mais des indications dont tout conducteur devra en connaître les significations et les respecter pour garantir sa sécurité sur la route. Heureusement, notre invité du jour est là pour nous aider à améliorer nos connaissances à ce propos. Monsieur Pétier Lambert, bienvenue sur Radio Série.
Merci Monsieur Steph B de nous accueillir sur votre antenne.
Alors, vous êtes le directeur du CTM. Déjà, dites-nous, c'est quoi le CTM concrètement ?
Bon, le CTM, c'est le centre technique de Maroua. C'est un établissement confessionnel de l'UEBC, l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, qui fait dans la formation professionnelle dans le système germanophone. Et à côté, nous avons donc le collège polyvalent du Sahel, l'ancien collège d'enseignement technique industriel.
Donc concrètement, le CTM est plus ou moins un établissement d'enseignement technique alors?
Oui, naturellement, parmi les tout premiers même de la région.
Alors aujourd'hui, nous abordons la problématique des pneus du véhicule, tant des voitures que des motos. Déjà, dites-nous, quelle est la différence entre la roue et le pneu quand on sait qu'habituellement, il y a une synonymie qui s'opère entre ces deux expressions?
Bon, déjà, je voudrais dire que la roue d'un véhicule, c'est cet ensemble qui est constitué d'un noyau, d'un voile, communément appelé disque ou bien tambour, et d'une jante et d'un pneumatique. Tandis que le pneu, c'est cet élément circulaire, généralement de couleur noire, que vous voyez équiper toutes les roues de véhicule.
Alors, le pneu en lui-même, c'est quoi son rôle sur un véhicule?
Bon, le pneu sert à maintenir ou à assurer le contact entre la chaussée et toute la structure du véhicule. Et c'est grâce au pneu que vous pouvez avancer avec votre véhicule.
Alors, quelle est la structure d'un pneu?
Bon, la structure d'un pneu est très complexe. Déjà, il est issu de la vulcanisation du caoutchouc, un procédé inventé, je crois, par Charles Goodyear en 1839, si j'ai bonne mémoire. Donc, il est constitué de beaucoup d'éléments. En dehors de ce caoutchouc vulcanisé, nous avons tout le nappage, nous avons tout le garnissage. Mais de façon générale, il y en a deux grands types, c'est-à-dire la structure radiale et la structure diagonale.
Et qu'est-ce qui fait la différence justement entre ces deux structures pour le profane qui nous écoute actuellement? Comment lui permettre de faire une différence entre les différentes structures d'un pneu?
Bon, déjà au niveau des différents types de pneus que nous avons ici chez nous avons pour la grande partie qui équipe les véhicules, la structure radiale, c'est-à-dire la bande de roulement est plate. Les pneus dont vous voyez la surface qui est en contact avec le sol, qu'on appelle la bande de roulement, elle est plate. Tandis que la structure diagonale, c'est ce que vous voyez très souvent sur les motos où la bande de roulement est un peu incurvée. Ça, c'est la... Vous pouvez de façon visuelle déjà faire la différence à ce niveau. Mais sur chaque pneu, ces indications sont inscrites. R pour la structure radiale, D pour la structure diagonale.
Le pneu a des parties, me semble. Quelles sont-elles les parties d'un pneu?
Bon, les parties, il y en a plusieurs. Nous allons prendre seulement les deux grandes parties, c'est-à-dire la bande de roulement, la partie qui est en contact avec le sol, et puis les flancs, d'où les parties, du moins ce qui va du sol jusqu'à la jante, ce qu'on appelle le flanc.
Alors, souvent aussi, on parle des pneus avec chambre à air, des pneus sans chambre à air. Comment est-ce qu'on en arrive à faire la différence à vue d'œil?
Bon, à vue d'œil, il faut avouer que ce n'est pas très évident de faire la différence pour un profane. Un professionnel, lorsqu'il regarde déjà au niveau des valves, il sait si c'est monté tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air, ou bien c'est monté avec chambre à air. Et déjà, au niveau de la structure des jantes, vous pouvez déjà savoir quel tel type de jante n'admet que les pneus avec chambre à air, et tel type de jante peut admettre donc les pneus montés tubeless ou avec chambre à air.
Ça c'est pareil pour les voitures et pour les motos, ou alors il y a des spécificités?
Bon, pour les motos c'est un peu difficile parce que très souvent c'est monté, les jantes sont montées sur des rayons. Et pour assurer donc l'étanchéité de ce type de jante, c'est difficile. D'où c'est pour ça que ce type de roues, ce type de jantes sont équipées d'une nappe à l'intérieur et naturellement d'une chambre à air, toujours.
En termes d'efficacité, de praticabilité même, entre un pneu sans chambre à air et un pneu avec chambre à air, lequel est plus sûr, plus efficace?
Bon, on ne peut pas dire le plus sûr, mais ça dépend donc de l'utilisation et du type du véhicule. Parce que les pneus montés tubeless ont quand même des limites au niveau de la charge utile supportable. Tandis que les pneus avec jantes démontables, avec chaque équipé de chambre à air, là, supportent de plus en plus de grosses charges.
Alors, lorsqu'on regarde de visu un pneu, on y voit inscrites plusieurs lettres, plusieurs chiffres. Comment réussir à déchiffrer les différentes références inscrites sur un pneu? À quoi est-ce qu'elles correspondent? Est-ce qu'elles sont les mêmes temps sur les pneus des motos que des voitures?
Bon, au niveau des caractéristiques inscrites sur les pneus, il y en a plusieurs types. Nous avons très souvent, en grosso modo, parce que s'il faut faire un cours de technologie sur le pneumatique, nous n'allons pas nous en sortir facilement parce que ça prendrait plus de temps. Mais généralement, sur les pneus, vous avez donc la largeur de la bande de roulement exprimée en millimètres. Quand vous voyez un pneu 205, c'est-à-dire c'est 205 mm au niveau de la largeur de la bande de roulement, et puis vous allez voir bar 80 par exemple, c'est-à-dire le flanc, oui, la hauteur, c'est-à-dire c'est 80% de la bande de roulement, et puis vous allez voir la structure R pour dire que c'est radial, et puis vous allez voir maintenant un chiffre, ça peut être 13, 14, 15, 16, 17, 18, ça c'est donc le diamètre de la jante. Et puis maintenant, vous avez donc la date de fabrication qui est indiquée en termes de semaine à deux chiffres et de l'année. Par exemple, vous allez voir 53-20, c'est-à-dire la 53e semaine de l'année 2020. Vous avez l'indice de vitesse sur le pneu. Vous avez également l'indice de charge inscrit sur le pneu et beaucoup d'autres petites caractéristiques dont je vous fais grâce.
Donc si j'ai bien compris, toutes ces inscriptions que nous voyons sur un pneu ont chacune une signification qu'il faut absolument connaître avant de choisir son pneu ou bien.
Naturellement, le technicien, lui, il sait les pneus parce que chaque constructeur vous donne les caractéristiques des pneus qui doivent être montés sur le véhicule. Parce que au niveau des angles de châsse, les braquages, comme on dit souvent, des volants, là, il y a quand même des limites à ce niveau-là. Et si vous ne respectez donc pas les caractéristiques des pneus préconisés par le constructeur, vous aurez des problèmes. Imaginez que vous prenez un pneu dont la vitesse limite maximale est de 120 km/h et que vous faites du 140, du 150, naturellement vous allez brûler ce pneu en quelques kilomètres et il y a risque d'explosion. Et un pneu qui explose donc en pleine circulation, je ne vous dis pas la suite.
Quelle est la quantité d'air à mettre dans un pneu, qu'il s'agisse d'un pneu de voiture, Ford Plus, ou bien un pneu de moto? Habituellement, on dit que lorsqu'on charge un véhicule, il faut ajouter de l'air dans le pneu. Est-ce que cette pratique est recommandée?
Bon, je ne peux pas dire recommandée ou pas. Mais quand vous voulez chausser votre véhicule, vous voulez gonfler les roues de les pneus de votre véhicule, il faudra vous référer aux prescriptions du constructeur. Parce que tous les constructeurs vous disent que pour ce véhicule, voilà le type de pneu, voilà la pression d'air à mettre à l'arrière, voilà la pression d'air à mettre à l'avant lorsque le véhicule est à vide et lorsque le véhicule est en charge. C'est pour ça que vous voyez toujours deux grandeurs de pression d'air sur la notice. Donc, des roues avant, 2 PSI, 3 PSI, ça c'est juste des exemples. Donc, roue arrière telle et telle, c'est-à-dire quand c'est à vide, c'est la petite grandeur, quand c'est en charge, c'est la grande grandeur.
Donc, en résumé, il est plus ou moins conseillé d'ajuster la quantité dans son pneu lorsque le véhicule est chargé.
Naturellement. Sinon, lorsque le véhicule est à vide et que vous mettez trop d'air, il va sauter. Et lorsque le véhicule est chargé, il y a moins d'air, les pneus vont s'affaisser. Et en ce moment, vous créez d'autres problèmes.
Alors, je reviens sur la question précédente concernant justement la quantité d'air à mettre sur le pneu. Nous savons, nous sommes en Marois. Si vous prêtez attention à toutes ces personnes qui ont pour métier de coller et de mettre de l'air dans les pneus, ils ont parfois des appareils qui n'ont pas d'unité de mesure. Comment connaître la quantité d'air à mettre sur son pneu?
Bon, en principe, la pression, vous avez des petits manomètres qui permettent de mesurer la quantité d'air que vous avez dans le pneu. Et très souvent, c'est vrai que quand je passe, je les vois. Ils ont quand même ce petit outil qui mesure la quantité d'air dans les pneus.
Je vous assure, pour avoir fait le tour, qu'il y en a qui n'en ont pas, mais qui se permettent quand même de mettre de l'air dans les pneus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à cela?
Bon, il y a un risque de surgonfler ou de sous-gonfler le pneu. Naturellement, vous allez être donc hors des grandeurs prescrites par les constructeurs.
Alors, tout à l'heure, vous mentionnez les références ou les prescriptions du constructeur en ce qui concerne la quantité d'air à mettre sur un pneu. Supposons quelqu'un qui a un véhicule de seconde main, mais qui ne l'a porté même pas, qui n'a jamais vu de notice. Où trouver les références en termes de quantité d'air à mettre sur son pneu dans la voiture?
Bon, ça dépend. Il y a d'autres qui les affichent, même déjà au niveau des tableaux de bord. Il y a pour d'autres constructeurs qui préfèrent les mettre dans le clapet de fermeture du réservoir d'essence, ou bien à côté des portières. Il y a toujours un endroit et chaque constructeur choisit délibérément. Il n'y a pas une norme à ce niveau-là.
Monsieur Béthier, dites-nous, pourquoi Et comment est-ce qu'on doit vérifier régulièrement la pression d'air de ces pneus?
Bon, on doit vérifier régulièrement la pression d'air des pneus, déjà pour maintenir le pneu dans un état optimal de fonctionnement. Ça, il faut le vérifier. Et si on est habitué même à son véhicule de Vigus, lorsqu'on voit un véhicule dont les pneus ne sont pas équilibrés, il y a des déséquilibres. Pour les véhicules modernes, vous allez avoir au niveau du tableau de bord une insigne d'un véhicule qui dérape. C'est-à-dire l'ESP, l'Electronic Stability Program, se déclenche pour vous dire qu'il y a des soucis à ce niveau, au niveau de l'équilibrage des roues.
Et s'il y a des risques, par exemple, au cas où un véhicule n'aurait pas justement un ajustement, on n'aurait pas ajusté de l'air dans les pneus d'un véhicule, et s'il y a des risques pour la circulation?
Oui, lorsque vous circulez avec des pneus sous-gonflés, la bande de roulement s'affaisse. Ça détruit, ça envoie des charges supplémentaires sur les flancs du pneu et naturellement, il y a risque de destruction anticipée ou de destruction active de ce pneu-là. Et déjà, lorsque vous roulez même avec un pneu sous-gonflé, un, il n'y a pas d'aisance au niveau de la tenue de route. Vous allez très vite le sentir qu'il y a des soucis à ce niveau. Et en plus, lorsque la bande de roulement est très grande, il y a des frottements élevés. Et ça induit d'autres conséquences qu'on pourra peut-être aborder plus tard.
Parlons de l'état des pneus. Comment est-ce qu'on devrait vérifier l'état de ces pneus? Et si possible, à quelle fréquence?
Bon, la fréquence de vérification des pneus dépend de l'usage. Ça, c'est d'un. Et du lieu d'utilisation. Par exemple, nous sommes ici à Maroua, nous sommes sans ignorer que nous avons des gros soucis avec nos chaussées qui induisent donc des grosses contraintes sur les pneumatiques de nos engins, de nos véhicules. Et à ce niveau, la vérification doit être plus régulière pour voir s'il n'y a pas déjà des débuts de fissures au niveau des roues. Mais sinon, pour chaque pneu, il y a ce qu'on appelle les témoins d'usure. Et là, dès que vous regardez un pneu et que le témoin d'usure est déjà à découvert, ça signifie qu'il faut remplacer ce pneu-là. Nous, techniciens, nous savons comment vérifier le degré d'usure de ces pneus.
Est-ce que tous les usagers devraient absolument recourir au service d'un technicien pour savoir si son pneu est usé ou alors il y a d'autres indices qui peuvent lui permettre de le faire lui-même?
Bon, si vous voulez utiliser un véhicule, vous serez passé par une auto-école. Et lorsque vous passez dans une auto-école sérieuse, on doit vous donner quand même des leçons par rapport aux pneumatiques, des leçons par rapport à ce qu'on appelle les vérifications usuelles qui doivent être faites par l'utilisateur de chaque véhicule.
Étant donné qu'on parle du postulat qu'effectivement il y en a qui ont non seulement oublié les leçons, il y en a d'autres qui n'ont pas reçu des formations pointilleuses, il y en a même qui n'ont jamais mis les pieds à l'auto-école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider puisqu'ils roulent et on les rencontre tous les jours sur la route? Ils peuvent nous mettre en difficulté. Nous, peut-être qu'ils avons ces notions-là, il faudrait qu'eux aussi les aient pour pouvoir améliorer leur conduite.
Bon, en principe, c'est interdit de ne pas passer par une auto-école pour apprendre à conduire. On appelle ça une école. C'est le lieu approprié pour apprendre l'utilisation du véhicule. Parce que pour utiliser le véhicule, il faudrait savoir comment le véhicule fonctionne, comment il devrait normalement se comporter et savoir utiliser la route. Il y a des codes partout, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau des véhicules, des tableaux de bord, parce qu'il y a même plusieurs types de pictogrammes dans les tableaux de bord. On devrait vous apprendre ce que chaque pictogramme signifie. Et ça, c'est lorsque vous apprenez à conduire dans ces écoles de conduite qu'on doit vous enseigner les significations, les dangers que vous accourez sur les différents types de pictogrammes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Il y a les rouges, les oranges, les bleus, verts, ainsi de suite. Chaque fois que ça a une couleur différente, ça a une gravité, une signification différente. D'où, à mon avis, ceux-là qui ont essayé de tricher pour obtenir un permis de conduire sans passer par une auto-école devraient quand même être humbles. D'essayer peut-être même en autodidacte de se mettre à niveau. Sinon, aller vers l'auto-école pour dire que bon, moi j'avais jonglé pour avoir mon permis de conduire, mais maintenant je veux vraiment apprendre à conduire. Parce que conduire ne signifie pas tenir le volant et passer les vitesses.
Je vous rassure, M. Bétier, que c'est à tout le sens de cette émission de sensibilisation routière usagée de la route, dont le rôle, effectivement, est de permettre aux auditeurs de Radio Serré de se mettre à jour dans les différentes techniques liées à la conduite et à la sécurité routière. Merci déjà pour ce rappel à l'ordre à l'endroit de ces auditeurs-là qui auraient eu des permis de manière frauduleuse. Alors, le pneu, tout à l'heure, vous avez mentionné, par rapport aux inscriptions sur un pneu, une date de fabrication. Est-ce que les pneus ont une date de péremption?
Bon, quand on dit date de fabrication, naturellement, il y a une date de péremption, tout comme un être humain. Nous ne sommes pas à vie indéfiniment. Naturellement, il y a quand même une date butoir à laquelle il faut remplacer un pneu. Lorsque un pneu est utilisé, normalement, il peut tenir, bon, je ne voudrais pas avancer le kilométrage parce que ça dépend du lieu d'utilisation, mais un pneu peut rester stable jusqu'à 5 ans. Au-delà, il devient très instable. Lorsque vous êtes dans des zones où le climat est un peu doux, la vulcanisation peut être stable 8-10 ans. Mais au-delà, ces pneus-là vont s'effriter seuls. D'où il y aura des micro-fissures. Quand vous allez voir des micro-fissures au niveau de ces pneus-là, et lorsque vous allez rouler, les flexions et les déformations que vous allez prendre sur la chaussée, il y a un risque d'explosion.
Donc en résumé, lorsqu'on fabrique un pneu, il n'y a plus une date de péremption déjà pré-inscrite. Tout dépend de l'utilisation.
Bon, pas tout dépend de l'utilisation. Il y a la date de fabrication, comme je l'ai dit tantôt. Et j'ai dit que le pneu peut rester stable 5 ans. Donc s'il est fabriqué en 2020, en 2025, vous devrez dégager ce pneu-là, que vous l'ayez utilisé ou pas.
C'est très clair maintenant. Alors, l'état des pneus, est-ce qu'il influe sur la consommation du véhicule, qu'il s'agisse de la pression d'air ou même de l'état en lui-même du pneu?
Bon, l'état du pneu, je ne voudrais pas m'aventurer sur ce volet-là, mais un pneu sous-gonflé, comme je le disais il y a quelques instants, un pneu sous-gonflé entraîne un indice de frottement plus élevé. Mais comme il faut quand même que le véhicule avance, le moteur va nécessiter plus de puissance pour pousser ce véhicule sous-gonflé. Et qui dit plus de puissance, plus de consommation en carburant. D'où naturellement les poches vont souffrir. En plus de détruire de façon anticipée les pneus, vous allez dépenser plus en carburant.
Lorsque vous parlez tout à l'heure justement de péremption des pneus, est-ce qu'il faut nécessairement changer tous ces pneus au même moment? Sinon, où faut-il poser les meilleurs pneus, à l'avant ou à l'arrière?
Bon, en principe, les constructeurs préconisent le remplacement de tous les pneus en même temps. Pour avoir vraiment un indice de sécurité optimal, vous devez remplacer tous vos pneus en même temps. Quant à ce que les bons pneus à l'avant ou à l'arrière, ça dépend encore là de la traction, du type de propulsion, que ce soit un véhicule à propulsion ou à traction, ça dépend. Propulsion, c'est-à-dire que ce sont les roues arrière qui poussent le véhicule et à traction, les roues avant qui tirent le véhicule. Donc à ce niveau-là, si vous avez un petit véhicule de tourisme qui a traction, naturellement, vous avez besoin d'avoir les meilleurs roues à l'avant. Mais si vous avez un véhicule utilitaire où vous avez besoin de charges à l'arrière, pour supporter plus ces charges, vous avez donc les meilleurs. Vous avez besoin d'avoir les meilleurs à l'arrière.
Mais on retient que le principe est qu'il faut changer tous les quatre pneus au même moment.
Naturellement.
Alors, quelle est la conséquence d'un parallélisme mal effectué lors du montage des pneus?
Bon, déjà, le parallélisme n'a rien à voir avec le montage des pneus. Vous pouvez avoir l'équilibrage des roues, parce que quand vous montez des roues, après l'avoir démonté, il y a quand même, lors de la vulcanisation, la pression qui peut ne pas être appliquée de façon uniforme sur toutes les surfaces du pneu. Il y a donc des parties un peu plus épaisses que d'autres, ce qui induit donc des déformations, le déséquilibre lorsque cette roue-là tourne. C'est pour ça que chaque fois que vous démontez un pneu de sa jante, vous devez rééquilibrer donc ses roues. À ce niveau, ce déséquilibre peut induire quand même des petites conséquences au niveau du parallélisme, du moins au niveau de la géométrie. Je préfère parler de la géométrie du véhicule parce que le parallélisme n'est qu'une partie de la géométrie du véhicule. Aussi, lorsque vous avez une géométrie qui n'est pas bien faite, que ce soit au niveau du parallélisme, vous avez donc des usures prématurées et pas uniformes du pneu. Vous allez voir un pneu qui est bouffé d'un côté. Or, un pneu à structure radiale qui doit avoir une bonne surface de contact au sol n'en a qu'une petite partie qui est en contact avec le sol parce que la partie usée est normalement suspendue. Et ça, vous avez déjà des difficultés dans la conduite au niveau de la dirigeabilité du véhicule qui est déjà affectée. Vous avez des problèmes au niveau du support de charge et le véhicule qui tire d'un côté ou de l'autre ou qui balance tout simplement. Et lorsque ce véhicule n'est plus équilibré, ça induit donc des contraintes élevées au niveau des roulements des moyeux. Et qui dit contraintes élevées au niveau de ces roulements, qui va de pair avec toute la tringlerie. Je préfère appeler comme ça parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez les rotules, vous avez les cylindres blocs, toute cette tringlerie-là est affectée. Et là, vous aggravez donc votre problème à cause des roues mal équilibrées ou bien sous-gonflées.
Je vais revenir légèrement en arrière, une fois de plus, sur l'état des pneus. Habituellement, on fait savoir que lorsqu'un pneu a la moindre anomalie sur le flanc, il faudrait absolument le remplacer. Pourquoi cela?
Bon, le flanc, c'est la partie fragile. C'est la partie fragile du pneu. Et lorsque vous avez donc des soucis au niveau du flanc, lorsque le flanc est déchiré, naturellement, vous ne pouvez pas faire une réparation professionnelle à ce niveau. Parce que la structure des pneus au niveau de cette carcasse-là fait de telle sorte qu'au niveau de la bande de roulement, il y a ce qu'on appelle la réparation par vulcanisation à froid. Tremper une mèche dans une colle et puis fermer le trou. Avec le contact avec le sol, ça peut supporter ces réparations. Mais au niveau des flancs, vraiment, quand vous avez des soucis sur les flancs des pneus, l'idéal serait de les remplacer. Bien que je vois les gens utiliser les moyens de bord. Ils vont chez le cordonnier, on colle, on coule, bon.
Il n'y a pas que les fissures sur le flanc, il y a parfois aussi des bosses. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une bosse se crée sur le flanc d'un pneu?
Bon, les bosses viennent du fait qu'il y a rupture de tout ce nappage, de ce maillage-là. Parce que quand vous prenez la structure des pneus, il y a déjà, comme j'ai dit, le caoutchouc vulcanisé, mais il y a quand même toute cette nappe, toute cette structure, le textile, cette ferraille qui soutient donc la structure du pneu, qui donne la forme même lorsqu'il y a des ruptures. Au niveau de ces mailles métalliques, naturellement, ce n'est que le caoutchouc qui reste là-bas. Et le caoutchouc étant déformable très facilement, alors là, vous avez donc votre bosse.
Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs structures de pneus. Est-ce qu'il y a un danger à monter 4 pneus avec des profils différents?
Bon, déjà, ce n'est pas très recommandé. Parce que dès que vous avez des profils différents, les utilisations étant aussi différentes en fonction de chaque profil. Parce que quand vous avez des pneus, au niveau des indications, vous allez voir sur certains pneus M plus S, c'est-à-dire mud and snow, c'est-à-dire la boue et la neige, ce sont des pneus conçus à cet effet. Si vous avez donc des pneus neige sur une roue, des pneus profil ville sur une autre roue, ainsi de suite, alors là, l'utilisation est faussée. C'est pour ça que même si les marques sont différentes, parce que vous avez tous les profils des pneus chez chaque constructeur, vous pouvez avoir les pneus des constructeurs différents, mais avec le même profil. Lorsque les profils sont différents, ce n'est pas du tout bon.
Ça, c'est à l'attention de nos frères camerounais qui font parfois avec les moyens du bord. Lorsqu'ils trouvent un pneu bon marché, forcément, ils le prennent sans se soucier de savoir si ces 4 pneus avec lesquels ils vont ajuster leur véhicule ont le même profil. Alors, il existe aussi plusieurs marques et gammes de pneus sur le marché. Quels sont les critères pour choisir les meilleurs pneus pour son véhicule? Au-delà, bien sûr, du profil du pneu qui correspondrait aux instructions du constructeur.
Bon, je ne voudrais pas faire de la discrimination sur le plan commercial des constructeurs, mais pour les différentes marques ou les différents types de pneus, chaque constructeur vous donne les caractéristiques techniques de son pneu et la durée de vie et de stabilité de son pneu. Chaque constructeur le fait et cette fois-ci, ça dépend donc de vous pour choisir la qualité qui s'y est. Mais au niveau des dimensions, ça c'est imposé par les constructeurs du véhicule. Il y a même certains constructeurs qui vous imposent même une marque de pneus. Mais ce n'est pas sérieux. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Parce que vous pouvez trouver quand même les profils, les types de pneus là, chez beaucoup de constructeurs. Et en fonction de votre budget, vous choisissez le pneu qui va avec votre véhicule et avec votre budget.
Au-delà de ça, quelle astuce est-ce que vous pouvez donner à nos usagers pour prolonger la durée de vie de leurs pneus?
Déjà, pour prolonger la durée de vie des pneus, il ne faut pas le laisser après avoir monté, stationné sur place. Parce que lorsque vous laissez un véhicule stationné sur place, il y a donc le soufre et le caoutchouc mélangé qui ne bouge plus, qui reste statique. Parce que lorsqu'un véhicule roule, il chauffe. et ça permet à rééquilibrer donc ces molécules dans les roues, dans les pneus, et ça permet de prolonger la durée de vie du pneu. Donc si vous voulez garer un véhicule pendant un temps un peu prolongé, l'idéal serait de démonter les pneus, de les garder à l'horizontale quelque part. Et là, les pneus ne supportent pas de contraintes sur un côté et laisser l'autre côté sans contrainte. Mais sinon, c'est d'utiliser donc les pneus pour prolonger la durée de vie. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, plus vous utilisez, plus vous prolongez la durée de vie de votre pneu.
Alors, quand vous parliez de démonter les pneus, si on a l'intention de garer le véhicule pour une durée prolongée, quelle est cette durée? Un mois? Deux semaines? Une semaine?
Non, il y a des personnes qui peuvent aller sur 6 mois. Le véhicule est dans les intempéries. Il y a le chaud, le froid, le côté qui est en contact avec le sol est presque toujours trempé, ainsi de suite. Bon, les 1 mois, 2 mois, si ce n'est pas au-delà, à partir de 6 mois, je pense que c'est mieux de démonter.
Alors, en dehors de ce conseil, il n'y a pas un autre conseil pratique pour prolonger, même en termes d'habitude de conduite, pour améliorer, alors pour prolonger la durée de vie du pneu?
Bon, le pneu, comme je le disais tantôt, il y a une durée de vie, a aussi besoin d'être à l'aise lors de son utilisation. Avec l'état de nos chaussées, lorsque vous voulez faire du rallye et que vous tombez donc dans ces nids d'éléphants, avec ces pneus, naturellement, vous pouvez détruire donc le maillage et avoir même les risques d'explosion ou bien de détachement même de la bande de roulement. Même quand ce n'est pas un pneu réchappé, c'est-à-dire le pneu dont on a refait la bande de roulement, il peut avoir détachement de la bande de roulement lorsque vous entrez à une certaine allure dans une crevasse.
Alors, M. Bétier, vous avez donné là quelques conseils, je vais dire, judicieux pour la sécurité routière de nos auditeurs, des usagers de la route dans la ville de Maroua et même dans la région de l'extrême nord. Mais comme la plupart sont plus à l'aise avec le Foufoldé, je vais vous prier de faire un tout petit résumé en cette langue-là, s'il vous plaît.
Oh, miri miyetta kadi etito be radio hosere min gadi siriande be barikire be fransare amma miidi mi hosa chameje sedda do be fulfulde min yewti do palloje moto palloje mota be fransare be biyata pneu e haton kadi min bi palloje man do wodi bindi fere don do maje se min dara dum boddum gam heba min hutinira dum be wadai dum gam mere amma kala mota mala mobilette fu do mari darnde je palloje man do se min fama noy je toy nastata haje toy e ba man ha hutinirgo pineje man do se min bada hakilo kadi andi labi amin haro do de jamai to don tamna mota mada be vitesse dum do to nasti der gaska do ko pinal ke sumbo awa na bara dum non kam majum kadi mi don yelo on se min gada hakilo hutinirgo pinalji amin motaji amin mobilite amin mi wawata mi yecca dum kan fulfulde man de laba e mi yetti on.
Alors, M. Bétier, en dehors de l'aspect enseignement, est-ce que le CTM offre des services en mécanique aux citoyens de la ville de Maroua?
Bon, comme je le disais tantôt à l'entame de l'émission, le CTM forme dans le système germanophone. Et dans le système germanophone, il faut absolument, pendant le cursus de l'apprenant, passer par un atelier professionnel. Et lorsque nous créions le centre technique de Maroua dans les années 70, qui a été ouvert effectivement en 1975, il n'y avait pas d'atelier professionnel dans la ville. C'est pour cela qu'au sein du centre technique de Maroua, nous disposons donc des ateliers professionnels avec des services offerts aux usagers. Et comme je le disais tantôt, nous avons des équipements qui permettent de faire la maintenance, l'entretien, le diagnostic jusqu'au véhicule de niveau de la norme Euro 5. Et là, vous pouvez venir avec vos véhicules que nous allons vous donner beaucoup de conseils et des diagnostics vraiment professionnels pour que vous puissiez avoir des connaissances plus amples, je crois que abordables à tous. Je voudrais dire que nous sommes situés à Founangé, en face de l'Union des Églises Baptistes, à côté du commissariat de la circulation routière là, et de l'autre côté, non loin, sans publicité, de l'agence Mokolo Express que nous partageons d'ailleurs le mur.
Monsieur Béthier Lambert, directeur du CTM, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Série.
C'est moi plutôt qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'éclairer le public sur l'utilisation optimale des roues ou des pneus de voiture.
Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs, nous tendons vers la fin de cette autre sortie des usagers de la route, dans laquelle nous avons parlé des pneus du véhicule avec le précieux concours de M. Lambert Béthier, directeur du centre technique de Marois, que nous remercions une fois de plus d'avoir mis son expertise à profit pour nous édifier. Nous espérons que vous avez renforcé vos connaissances des pneumatiques de votre engin à partir des explications de notre invité, dont voici les points essentiels. Il faut vérifier la pression d'air de vos pneus chaque jour, car un pneu sous-gonflé augmente votre consommation en carburant et un pneu trop gonflé diminue l'adhérence avec la route. Chaque pneu a une durée de vie qui varie entre 5 et 10 ans en fonction de l'usage que vous en faites. Au-delà de cette durée, il est fortement conseillé de changer vos pneus. Il est aussi hautement recommandé de changer tous ces pneus en même temps. À défaut, il faut mettre les nouveaux pneus à l'avant si c'est un véhicule à traction ou derrière si c'est un véhicule à propulsion. Lorsque votre véhicule doit rester stationné pendant une longue durée de temps, il est recommandé de démonter les pneus pour préserver leur durée de vie. Le pneu est un élément essentiel de stabilité de votre engin et de sécurité routière. Vérifiez toujours l'état de vos pneus et changez-les au besoin pour optimiser votre sécurité et celle des autres usagers de la route. On ne cessera pas de le rappeler, le code de la route est une affaire de tous et nous devons toujours le respecter afin d'éviter d'occasionner ou d'être victime d'accidents dont les conséquences sont parfois tragiques. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme, particulièrement Maxino qui en a assuré la technique, et David Bayan, la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition. D'ici là, restez prudents sur la route. À très bientôt.